Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Calade. Au sommaire de notre édition, 6 militants de l'action non-violente COP21 paraîtront le 28 mai prochain au tribunal de Bourg-en-Bresse. Concernant l'opération nationale hashtag Sortons Macron, il s'explique dans cette édition. Puis, État généraux des migrations à l'initiative d'une pétition de 12 engagements pour une Europe solidaire et fraternelle à l'adresse des candidats à l'élection européenne prochaine. Et en conclusion, fête de l'environnement le 18 mai prochain avec nous Olivier Mandon, adjoint à l'environnement et au développement durable de la ville de Villefranche. Calade, le journal. Le ramadan est un des 5 piliers de l'islam. Le ramadan a commencé le 6 mai en France. Pendant ce mois considéré comme sacré, les fidèles ne doivent ni manger ni boire de l'aube au coucher du soleil. On estime entre 4 et 5 millions le nombre de personnes de culture musulmane en France, selon un sondage IFOP Marianne réalisé en 2011. 71% des fidèles en France déclaraient respecter le jeûne du ramadan. Article de Raphaël Talbot pour le journal Le Monde. Aucune disposition du Code du travail ne vise explicitement cet acte religieux, mais certaines d'entre elles peuvent s'appliquer aux salariés pratiquants, explique au journal Le Monde Pascal Caillot, professeur de droit à l'Université de Nantes. Le ministère du Travail a publié un guide pratique du fait religieux dans les entreprises privées pour éclaircir des situations entre salariés pratiquants et employeurs. Rien n'est obligatoire. Le salarié pratiquant le ramadan peut cependant négocier en amont un aménagement de son temps de travail. Décalage des pauses pour tenir compte de la rupture du jeûne, journée continue, sans pause déjeuner, journée raccourcie, etc. Son employeur peut le lui accorder si cela n'entrave pas l'organisation de l'entreprise. Il peut demander en contrepartie au salarié de rattraper les heures non travaillées ultérieurement, ajoute Pascal Caillot. Mais l'employeur peut également le lui refuser, en vertu de son pouvoir de direction. Il doit veiller à ce que son refus ne soit pas constitutif d'une discrimination, précise le professeur de droit. Le Code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs. Le fait de jeûner ne représente pas en soi une impossibilité de travailler. Si un médecin du travail établit que le jeûne ne permet pas d'exécuter un travail en toute sécurité, l'employeur doit retirer le salarié de son poste. Dans ce cas-là, la rémunération de l'employé n'est pas forcément maintenue. L'employeur peut également décider d'un changement d'affectation sans que cela constitue une sanction disciplinaire. Un refus de congé payé sur la base d'une confession religieuse est interdit. Mais l'employeur peut refuser une demande de congé de son salarié pour des raisons liées aux contraintes de l'entreprise. Si le repas d'affaires fait partie du travail pour lequel l'employé a été embauché, comme c'est le cas chez certains commerciaux, son supérieur peut exiger sa présence. Mais il ne peut l'obliger à consommer le repas. Il faut donc distinguer la présence au repas de la consommation des aliments ou des boissons. Et pour conclure, dans la pratique, les religieux musulmans admettent des dérogations de rupture du jeûne pour les fidèles en difficulté, notamment en période de canicule. 6 militants de l'action non-violente COP21 paraîtront le 28 mai prochain au tribunal de Bourg-en-Bresse pour vol en réunion concernant l'opération nationale hashtag Sortons Macron, un acte de désobéissance civile s'opposant aux politiques contribuant au dérèglement climatique. Il s'explique tout de suite dans notre édition.
Nicolas Guérini. Oui, alors l'opération Sortons Macron est une opération qui a été lancée au mois de février par NVCOP21 au niveau national et qui consiste à aller symboliquement décrocher les portraits du président de la République dans les mairies pour dénoncer l'inaction climatique d'Emmanuel Macron et de son gouvernement et symboliquement laisser un mur finalement dans les mairies aussi vide que sa politique en matière d'environnement et de climat. Donc ça a eu lieu dans près d'une trentaine de communes en France. Aujourd'hui, on en est à 39 portraits qui ont été réquisitionnés. Et l'idée, alors on parle volontairement de réquisition parce que on ne souhaite pas conserver ces portraits. Hein, et l'idée, c'est qu'on rendra ces portraits, effectivement, quand le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire face aux périls climatiques.
Et évidemment, puisque vous êtes parti avec un bien municipal, vous êtes sous le coup, en quelque sorte, de la justice, c'est bien cela ?
Anne-Sophie Trujillo-Gaucher. Oui, on a été convoqué en garde à vue d'abord, et puis ensuite appelé à comparaître devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse pour le 28 mai prochain, mardi 28 mai. Il y a comme ça beaucoup de citoyens activistes pour le climat de cette opération Sortons Macron qui font l'objet d'auditions libres, de garde à vue et de convocations au tribunal, puisqu'il y a plus d'une 70 personnes qui ont été en audition libre, en garde à vue, et qu'il y a aujourd'hui 24 personnes qui sont appelées à comparaître devant 6 tribunaux différents. Donc la première date, c'est à Bourg-en-Bresse le 28, et ensuite il y aura Strasbourg, Mulhouse, Paris, Lyon et Grenoble, jusqu'en novembre à peu près. Donc effectivement, on est appelé à comparaître souvent pour des délits de vol, avec ce que disait Nicolas, nous, un positionnement politique qui est de dire qu'il y a urgence climatique, qu'il faut se bouger et que du coup on était allé chercher le symbole là où il peut faire mal, et la répression est effectivement très forte, et c'est étonnant que le gouvernement passe autant de temps et la justice sur des histoires pareilles.
Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ça fait des années qu'on essaye de... On n'est pas les seuls, hein. Là, je parle au nom d'ANVCOP21, mais il y a quand même beaucoup d'autres ONG, associations qui s'investissent sur le sujet depuis de très nombreuses années. Les alertes des scientifiques, on les connaît, on va même pas revenir dessus. Le fait est qu'aujourd'hui, dans le dialogue, quand on essaye de construire quelque chose de l'ordre du dialogue, ça ne fonctionne pas, et finalement, on ne voit rien changer. On a été amené à réfléchir à des nouveaux modes d'action, effectivement, et qui sont susceptibles de nous donner finalement des tribunes médiatiques pour qu'on parle de ce sujet. Encore une fois, nous, on est véritablement convaincus que cette urgence, elle est là. Les effets du dérèglement climatique ont déjà commencé un peu partout dans le monde. Chez nous, encore pas trop, mais ailleurs de façon très très marquée. Donc aujourd'hui, on cherche des modes d'action qui effectivement permettent simplement qu'on entende notre voix et qu'on entende encore un petit peu plus cette urgence. Hier, il y avait le rapport de l'IPBES qui est sorti sur la biodiversité, qui est aussi catastrophique que le rapport du GIEC qui est sorti en octobre dernier.
Alors, vous encourez quoi? On finira peut-être là-dessus. Vous encourez quoi, finalement, très bientôt?
Et très bientôt, qu'est-ce qu'on encourt? Donc, on est convoqué par la justice pour vol en réunion, avec une petite circonstance aggravante en ce qui nous concerne à Bourg-en-Bresse, qui est par ruse, puisque, voilà, semble-t-il, nous sommes rentrés par ruse. Et donc, à ce titre-là, nous risquons jusqu'à, selon la loi, donc ça c'est les peines maximales prévues par la loi, 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
Voilà, nous sommes 6 prévenus aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, il y a Nicolas, moi et puis 4 autres personnes, et nous étions 13 à mener cette action début mars à la mairie de Jassan.
Le 28 mai prochain, 6 militants d'ANVCOP21 passeront en procès au TJ de Bourg-en-Bresse suite à la réquisition du portrait présidentiel dans le cadre de l'opération nationale hashtag Sortons Macron. 39 portraits présidentiels ont été réquisitionnés depuis février dernier afin de marquer le vide d'action gouvernementale pour le climat qui n'évolue pas selon les militants. Le 28 mai prochain, ANVCOP21 et Alternatiba invitent à manifester son soutien devant le tribunal de Bourg-en-Bresse. État généraux des migrations, EGM, à l'initiative d'une pétition de 12 engagements pour une Europe solidaire et fraternelle à l'adresse des candidats à l'élection européenne prochaine. Nous sommes en compagnie de Louis Loss, Francis Desgardins et Jean-Yves Fimbel, participants aux EGM. On les écoute tout de suite.
Donc, de ces EGM, bien sûr, différentes questions sont posées dans le cadre des élections européennes, en quelque sorte. Hein, on tire un peu la sonnette d'alarme. En tous les cas, on questionne nos futurs parlementaires européens. C'est un petit peu cette idée-là, hein, c'est ça?
Francis Desgardins. En fait, la politique migratoire européenne conditionne aussi totalement notre politique française. Hein, et cette politique est insuffisante, inefficace et coûteuse. Donc ça n'empêche pas les migrants d'arriver et de venir demander l'asile. Ça coûte et finalement, c'est inefficace parce que la plupart n'obtiennent pas le statut de réfugié et restent d'une façon ou de l'autre sur place. Et entre-temps, c'est toute une perte d'énergie et de capital humain dont les pays européens ont besoin. Peut-être moins la France que d'autres, mais quand même, nous en avons besoin aussi. Nous avons des tas d'emplois non pourvus, par exemple, que les migrants peuvent très bien remplir.
Très bien. Et puis, par rapport à ça aussi, la question des mineurs,
Louis Loss, les mineurs donc, sont souvent accueillis de façon à peu près correcte jusqu'à à leur majorité. La question étant de savoir s'ils sont vraiment mineurs, donc on va leur faire subir un tas de tests osseux ou autres donc biologiques qui ne sont pas forcément très très fiables et qui ont comme résultat, une fois qu'ils ont établi la majorité, la prétendue majorité de la personne, de les mettre carrément dehors alors qu'ils ont parfois 3 ans de scolarité en France ou d'intégration déjà bien commencée. Et de formation.
Alors, Jean-Yves Fimbel.
Oui, là, en fait, ce qui se passe, c'est que compte tenu des différentes listes en présence pour les élections européennes, donc les États généraux des migrations sollicitent les différents candidats à la députation européenne par rapport à un certain nombre d'engagements. Il y a 12 engagements sur lesquels on leur demande de se prononcer. Et à l'heure actuelle, les réponses ne sont pas toutes parvenues, mais disons qu'il y a à peu près 65, je crois, députés, potentiellement députés, candidats européens, qui ont répondu à cette invitation. Mais ça ne concerne que 3 formations politiques pour l'instant. Donc les autres, on peut espérer qu'elles répondront. Il y en a certaines dont on sait qu'elles ne répondront pas favorablement. Mais en tout cas, ça permet aux gens de se positionner, de dire clairement, plutôt que de répondre à des fantasmes ou des fausses nouvelles, de se dire, bon, voilà ce qu'il en est. Est-ce que là-dessus, vous êtes d'accord ou pas? Et il y a un certain nombre d'engagements qui sont notamment les candidats qui ont été sollicités. Et il y en a 65 qui ont répondu. Ça, c'est pour l'instant l'état des lieux. De réponses par rapport à cette, entre guillemets, cette charte, si on peut dire, pour améliorer la politique migratoire de la France à l'intérieur de l'Union européenne, puisque c'est l'enjeu des élections du 26 mai.
Les assemblées locales des EGM mènent campagne auprès des candidats à l'élection européenne prochaine et leur proposent de s'engager sur 12 points concernant les migrants. Mieux respecter les droits humanitaires, assurer un accueil digne et républicain. Et pour conclure cette édition, fête de l'environnement le 18 mai prochain, Place des Arts. Avec nous, Olivier Mandon, adjoint à l'environnement et au développement durable de la ville de Villefranche.
Alors, les engagements, au niveau de la ville, ils sont présents au quotidien, puisque vous savez qu'on a mis en place depuis 2009 maintenant un ensemble de référents, donc ils sont présents dans l'ensemble de la collectivité, avec des personnes qui se réunissent régulièrement et qui permettent de voir véritablement vers où ce lien se fait avec notre cahier des charges qui a été mis en place. Les référents donc apportent leur ressenti, apportent leur retour, et au fur et à mesure, nous avançons. Donc l'exemple qu'on a, c'est, on le voit bien au niveau de la propreté urbaine, au niveau des espaces verts, on est obligé d'évoluer vers des pratiques complètement différentes qui ont été obligatoires donc par la loi, mais qui en même temps, de notre côté aussi, a été anticipée donc avec les serres qui ont été mis en protection biologique intégrée.
Anti-phyto, etc.
Exactement. Donc le zéro phyto donc a été mis en place donc par la loi au 1er janvier 2017, dont Villefranche avait anticipé depuis très longtemps. Et donc oui, c'est une véritable complexité. Vous êtes obligé d'avoir des véhicules spécifiques, on est obligé d'utiliser des matériels spécifiques pour pouvoir nettoyer les trottoirs, pour pouvoir gérer nos espaces verts, pour pouvoir gérer nos lieux. Donc c'est très compliqué, en fait, véritablement. Même s'il le faut, il faut que les collectivités soient impliquées par rapport à la problème climatique, mais il faut aussi que chaque citoyen, donc c'est un petit peu le but de cette fête de l'environnement, c'est de montrer, nous les collectivités, on est engagés, les élus, on est engagés, mais il faut aussi que tous les citoyens aillent dans cette démarche, parce que c'est pas simplement les collectivités qui réussiront à tout rétablir, en fait.
Fête de l'environnement le 18 mai prochain, Place des Arts à Villefranche, l'environnement est affaire de tous. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Calade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade.